Weekend.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
On apprend à l'instant que des militants environnementalistes auraient déposé des objets incendiaires sur du matériel roulant du site de Nordvolt. Imaginez, on parle d'objets incendiaires qui ont été déposés sous de la machinerie sur le site de la future usine. Et on se demande pourquoi. Bon, ils veulent retarder les travaux menant à la construction de cette usine-là. Je veux bien. Mais il y avait des dispositifs de déclenchement de ces objets incendiaires. Heureusement qu'ils n'ont pas fonctionné. Ces militants-là, environnementalistes-là, soi-disant, on dirait qu'ils tiennent plus aux arbres qu'aux êtres humains. On dirait qu'ils tiennent plus aux pissenlits qu'aux êtres humains. On dirait que pour eux, un milieu humide, là, vaut bien plus qu'une vie. En passant, les conducteurs de ces machineries-là, là, c'est pas des cadres de Nordvolt, c'est du monde comme vous qui vont à job le matin puis qui s'attendent pas à ce que des niaiseux, là, des tarlats, aient mis des objets incendiaires en dessous de la machine. À quoi vous pensez quand vous mettez en danger l'intégrité physique, voire la vie de ces travailleurs-là? Si ça, c'est pas du terrorisme, c'est quoi? De faire peur, du terrorisme environnementaliste, c'est quoi? Ils sont où, ces courageux, qui sont prêts à blesser pour la cause environnementale, mais n'ont pas le courage de lever la main pour dire « oui, c'est nous, puis on va faire face à la musique, puis on va payer de ces conséquences-là s'il le faut. » Courage, là, c'est plutôt de la lâcheté. La dignité humaine, là, c'est précieux. La vie humaine n'a pas de prix. Aucun milieu humide, aucun arbre ne vaut la valeur d'une vie humaine. Rien ne justifie de chercher à blesser des travailleurs de la construction. Réveillez-vous, là, puis arrêtez de donner des leçons de morale sur l'environnement. Vous êtes une bande de lâches, une bande de terroristes environnementaux, une bande de pilleurs et une bande de casseurs. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, on revient sur le sujet de la fameuse guerre qui oppose Israël à Gaza, au Hamas. Et là, il y a comme un embouteillage de nouvelles là, qui arrive de tous bords, tous côtés. Le premier, c'est Israël qui évacue 100 000 civils à Rafah parce qu'il veut mener son offensive. La deuxième, c'est le Hamas qui dit vouloir approuver la proposition présentée par l'Égypte et le Qatar. Et c'est pour ajouter tout ça, ben Israël bannit Al Jazeera. Démêle-nous tout ça, Luc Lavoie.
Oh là là, en effet. Mais écoute, dans le cas de la proposition de cessez-le-feu qui a été négociée sous l'égide du Qatar, parce qu'il y a deux propositions. On n'ira pas dans les détails de ça. Il y a eu celle de l'Égypte qui est aussi à table, puis il y a eu celle du Qatar. Celle de l'Égypte a été acceptée par Israël et le Hamas n'a rien dit pendant plusieurs jours. Ne l'a pas rejeté. Là, le Qatar est revenu avec une proposition de cessez-le-feu qui est essentiellement la même que celle de l'Égypte. Et là, le Hamas a formellement accepté, là, il y a à peu près une heure et demie, qu'ils ont émis un communiqué. Ils ont parlé des rencontres et des pourparlers entre son ministre, le premier ministre Qatari, puis le ministre égyptien des renseignements. Et puis, alors, la question est la suivante. Netanyahou avait accepté la première mouture, celle de l'Égypte. Et là, il n'a rien dit jusqu'à maintenant, à part de dire « personne ne va nous empêcher d'aller à Rafah ».
Lui, il veut rentrer à Rafah.
Puis là, il est en train de donner tous les signes. Écoute, c'est tellement dégueulasse ce qu'ils font. Ils sont à Rafah, puis on dit aux gens, on dit qu'à Rafah, à l'heure actuelle, il y a 1,2 million de réfugiés dans des tentes, puis cachés sous des pierres, puis ainsi de suite. Là, ils ont dit qu'il fallait en évacuer 100 000 vers une zone qui était plus sécuritaire. Et au moment où ça, je dis, les réfugiés en question, ils partent dans toutes les directions, ils sont affamés.
Son père?
Officiellement, l'ONU a dit que jusqu'à maintenant, on parlait du fait qu'on s'en allait vers une famine. Là, on dit que ces gens-là sont en pleine famine. Alors, ils sont en train de sauver. Alors, à peu près 2-3 heures après qu'Israël a émis son ordre d'évacuation, ils se sont mis à bombarder le quartier. Alors, ça te donne une idée. Sauvez-vous, puis pendant que vous allez vous sauver, on tire. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver. Netanyahou va parler avec Biden cet après-midi. Mais je pense que Netanyahou, on est mieux de tenir pour acquis qu'il ne fera jamais un compromis d'aucune façon parce qu'il a tellement peur que son gouvernement tombe. Imaginons deux ministres importants venant des extrémistes
de droite,
d'extrême droite, démissionnaient. Son gouvernement tombe, puis la police rentre chez lui, il l'arrête puis il l'amène en prison pour corruption. Alors, Netanyahou, oubliez ça. Alors, on va aller vers Al Jazeera. Al Jazeera, les Québécois connaissent à peu près pas Al Jazeera. Pourtant, Al Jazeera, c'est la première organisation de nouvelles et d'affaires publiques inspirée des modèles nord-américains.
Du BBC, de la CNN, de Fox, de RDI.
Oui, d'ailleurs, c'est la première haute direction de l'information, c'était des Canadiens, c'était notre amie Catherine Cano qui était à Radio-Canada. Et Tony Berman, qui était à CBC. Donc, Al Jazeera, c'était la première fois dans l'histoire de cette région qu'on avait vraiment une organisation de nouvelles qui agit en fonction des mêmes codes de déontologie.
Même standards.
Et des mêmes standards que nous. Le problème, c'est que Israël ne laisse pas entrer aucun média à l'intérieur de Rafah, sauf que Al Jazeera était là parce qu'il y a beaucoup de leurs employés qui vivent là, qui vivaient là. Alors là, ils en ont abattu une vingtaine des employés d'Al Jazeera. Al Jazeera continuait son travail, puis ils étaient les seuls à avoir des images dégoûtantes de ce qu'Israël est en train de faire là-bas. Et puis, ils n'en venaient jamais à bout. Fait que là, hier, ils ont dit, on ferme la place. L'armée est rentrée à Al Jazeera, son bureau de Jérusalem, qui est son bureau principal dans cette région. Ils ont sacré dehors. Il y en a qui sont à l'intérieur de Rafah, et qui se disent, bon, ben maintenant, on va se faire descendre, nous autres aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Ils sont incapables de sortir. Alors, Al Jazeera, c'est quand ils ont commencé à diffuser en anglais et qu'ils ont rendu leur signal disponible au monde entier, ici au Canada, il y a eu une levée de boucliers de la communauté juive qui voulait rien entendre, qui voulait que le CRTC empêche les câbles aux distributeurs de distribuer le canal en question.
Oui. Ils ont réussi ou pas?
À moitié. Tu peux l'avoir, mais ça coûte cher.
Okay? Il faut vraiment que tu veuilles l'avoir.
Faut vraiment que tu veuilles l'avoir. Alors, et franchement, ils font de la télévision. Je pense que tu connais.
Mais moi, je connais, je regarde de temps Al Jazeera en anglais qu'en arabe, et c'est de très haute qualité.
Oui.
Mais ce qu'Israël reproche à Al Jazeera, puis ça, on ne sait pas à quel point c'est vrai ou pas, mais il faut le dire, ce qu'ils reprochent à leurs journalistes, à leurs employés, d'avoir pris part aux événements du 7 octobre.
Oui, mais c'est faux. Moi, je ne le crois pas un seul instant, à moins que... Mais c'est le genre d'accusation qu'on lance à tort et à travers. Al Jazeera appartient au Qatar.
Oui.
Ça appartient, c'est dirigé... Enfin, l'ultime patron, c'est l'émir du Qatar. C'est basé à Doha, au Qatar.
Ils ont des correspondants partout. Là. Ils sont aux États-Unis, ils sont à Maison-Blanche. Ils sont partout, là.
Ils sont partout dans le monde. Ils sont en Amérique latine. Ils sont absolument partout. C'est une très grosse organisation.
Ouais.
Et qui se veut objective. Maintenant,
c'est la preuve
que l'objectivité...
est relative.
N'a jamais vraiment existé dans le journalisme. C'est une histoire qu'on se raconte entre nous. On est tous, chacun, toi, moi, chacun de ceux qui interviennent dans les médias, sommes subjectifs.
Non, mais toi je trouve que t'es neutre. Surtout quand tu parles de Québec solidaire, des séparatistes et tout, je te trouve... C'est une joke!
J'allais dire... Moi, je prétends pas être ni objectif, ni neutre. Et mon travail n'est pas de faire de l'information froidement.
C'est de commenter puis donner
mon opinion. Alors, mais même pour le reste, je ne crois pas à leur définition de ce qu'est l'objectivité. Alors, Al Jazeera couvrait tout ce qui se passait dans cette région du monde. Et c'est sûr qu'il le faisait avec un biais culturel arabe. Mais on est tous des produits de notre culture. Fox News, c'est la même chose.
MSNBC, ouais, c'est pas ouais, à gauche.
Puis, les Français, le BFM TV, c'est la même chose.
C'est News.
C'est News et tout. Bon, alors, enfin, Israël est en train de jouer des cartes extrêmement dangereuses. Je sais pas ce que Biden va faire.
On peut plus. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la plus grande démocratie de la région? Tu sais, une fois qu'une démocratie commence à mettre
ça,
dehors.
Ça n'a plus grand-chose d'une démocratie, là. Ils sont dans des territoires occupés, ils n'ont pas le droit d'y être, puis en plus, ils amènent des colons qui sacrent à la porte les habitants qui sont là depuis des siècles et des siècles.
Puis ils ferment des médias.
Puis ils ferment des médias, puis ils tirent dans le tas quand ils en voient, puis écoute, Israël vit une déchéance à l'heure actuelle.
C'est Netanyahou qui est responsable de ça, pas le peuple.
Mais fais attention. Et après tout, là, il vote juste assez en faveur de Netanyahou pour qu'il soit au pouvoir. Je dis pas là, qu'ils sont à 100% alignés de la même façon, c'est pas vrai. Il y en a même qui sont très, très critiques.
Non, on a vu des manifestations en fin de semaine.
Oui, oui, tout à fait. Il y en a qui sont extrêmement critiques.
Bien sûr.
Mais à l'heure actuelle, c'est pas eux qui ont le microphone. Et non. Puis, depuis l'attaque du 7 octobre, ils pensent que ça y est, vous avez essayé de nous exterminer, nous les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne permettra plus jamais à personne de mettre en danger la communauté juive ou que ce soit sur la planète. C'est ça la façon de penser. Et maintenant, tout le reste en découle. Et puis, en toute objectivité...
Évidemment.
En toute objectivité, il y a un peu de vrai dans ça, je veux dire.
Ben aujourd'hui, c'est Yom HaShoah. Hein?
Oui, oui, c'est la journée.
C'est la journée de commémoration de l'Holocauste. C'est dire plus jamais. Et il faut que le plus jamais soit pour tout le monde.
Oui, oui, et c'est ça qui est renversant, regardez aller l'État d'Israël. Eux qui ont été les victimes de quelque chose de pire.
De monstrueux.
En fait, c'était pire, c'était monstrueux, c'était
innommable.
Un nettoyage ethnique sur une base industrielle en utilisant les poisons les plus modernes, enfin c'est...
L'idéologie la plus crasse, la plus inhumaine, la plus barbare qui puisse exister,
oui,
c'est
oui,
bien l'Holocauste.
Ce que le monde a connu de pire,
de
oui.
De pire, là.
Oui, alors...
Puis le silence
oui.
De bien des nations pendant que ça se faisait, c'est aussi
dont,
ça.
Dont le Canada.
Dont le Canada.
Qui a refusé d'accueillir des réfugiés juifs.
Et qui ont dû être retournés puis gazés oui. Parce qu'on a refusé de les recevoir.
Oui, oui.
Faut se rappeler de ça.
Il faut jamais oublier ça.
Faut jamais
oublier
ça.
L'Holocauste. Puis assurez-vous que vos enfants connaissent cette histoire-là. C'est une des histoires les plus importantes de la civilisation. Je pense pas. Bien qu'à l'époque de l'Empire romain, il y a eu quelques barbaries commises. Là. Enfin, ça reste quelque chose qui nous dépasse, qui nous hante, et qu'on porte en nous parce qu'on est des humains. Et...
Ben, ça nous rappelle que l'humain est capable du meilleur comme du pire.
Voilà.
Et le pire, c'est important de s'en rappeler.
Et le pire, on est en train de le voir
de
sous
le revivre.
Nos yeux. Alors, on a hâte que ça finisse.
Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Merci.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Lentement mais sûrement, la course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec commence à se concrétiser, à prendre forme. Les clans commencent à se former. Et aujourd'hui, on apprend l'appui de Carlos Leitao, l'ancien ministre des Finances du Québec sous le gouvernement Couillard. Ben, il appuie Fred Beauchemin, qui est finalement le seul potentiel candidat à cette course au leadership, qui n'est pas encore confirmé. Il n'a pas encore confirmé sa candidature, mais déjà, il accumule un premier appui, celui de Carlos Leitao, qui est avec nous. Bonjour, M. Leitao.
Et bonjour, Yasmine.
Pourquoi appuyer Fred Beauchemin quand Fred Beauchemin ne s'est pas encore déclaré officiellement candidat?
Bon, écoutez, ça fait déjà un certain temps qu'on se parle de cela, de cette possibilité-là. On en a discuté de plusieurs enjeux. Là, récemment, il y a le parti qui a rendu public, disons, la feuille de route pour le choix du prochain chef ou de la prochaine chef. Donc, j'ai trouvé que c'était le moment approprié pour me prononcer, moi, et en même temps lancer un signal à notre parti ainsi que... Évidemment, à Fred, mais à tous les autres candidats potentiels, écoutez, là, c'est le moment. Si vous pensez vraiment y aller, c'est le moment de prendre une décision, ou en tout cas, le moment d'une décision approche. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette sortie.
Ça a surpris plus d'un que vous soyez le premier finalement à vous jeter dans cette course-là avec l'appui que vous donnez, parce que visiblement vous êtes beaucoup plus dans le leadership que ben des candidats. Pourquoi Frédéric Beauchemin plutôt qu'un Carl Blackburn, un Charles Milliard, un Denis Coderre?
Écoutez, parce que je trouve que Fred a un profil similaire au mien. On se connaissait d'avant la politique. On était dans le même milieu, le milieu bancaire, le marché des capitaux. On n'était pas des amis intimes ni rien, mais on s'est croisés à plusieurs reprises dans les années 2000, etc. Et puis surtout, vers 2020, 2021, surtout 2020, quand Dominique Anglade a lancé sa course à la chefferie du parti, Frédéric et moi, nous étions faisons partie de l'équipe de Dominique, et donc on a commencé à collaborer. Et je me suis rendu compte, nous nous sommes rendu compte que nous avons en fin de compte des perspectives assez similaires. Donc voilà, c'est pour ça.
Est-ce que ça peut être considéré comme un coup d'épée dans l'eau, étant donné qu'on ne voit pas que la candidature potentielle de M. Beauchemin suscite, disons, l'enthousiasme à tout le moins auprès du caucus libéral? T'sais, on ne voit pas beaucoup de députés du caucus libéral militer fort, même en coulisses, pour Frédéric Beauchemin. Est-ce que finalement, c'est un appui qui est vain?
Oh non, je ne crois pas. Si je pensais que c'était ça, je ne l'aurais pas fait. Je vois ça plutôt comme étant une première étape. Disons le starting gun vient de sonner, et vous avez raison, il va falloir que Frédéric soit capable d'élargir sa base de soutien. Si c'est juste lui et moi, ça n'ira pas très loin, évidemment. Alors moi, j'espère qu'en faisant la sortie que j'ai fait, que ça puisse inspirer d'autres à se joindre à l'équipe. Moi, ce que je veux surtout, c'est que cette course au leadership qui s'amorce maintenant, soit on puisse assister à un vrai débat. Et donc je pensais que c'était important d'avoir une perspective un peu plus de responsabilité fiscale, de finances publiques saines, cet aspect-là dans la discussion qui va avoir lieu au cours des prochains 3-6 mois, 9 mois dans la course au leadership.
En même temps, vous parlez de l'aspect fiscal et de gestion des finances publiques saines. Il y a quelques mois, vous aviez dit au micro d'une entrevue que si c'était à refaire, l'exercice, disons, d'assainissement des finances publiques que vous avez fait, auquel vous avez participé durant l'ère Couillard, vous le feriez différemment, à tout le moins étalé sur plusieurs années pour que ça soit moins difficile sur les contribuables. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore ce même sentiment?
J'ai encore ce même sentiment. Cependant, ce que j'ai dit très spécifiquement, c'est qu'on aurait pu faire différemment en éducation. Le reste, non, non, non. En santé, justice, famille, etc. Non, non. En éducation, j'ai dit que, à bien y réfléchir, on aurait dû y aller de façon différente. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les médias d'aujourd'hui ou hier, il y a le palmarès des ministères. Et on voit que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, c'est un qui a la plus de difficulté à atteindre ses objectifs. Donc, le ministère de l'Éducation, c'est toujours beaucoup plus complexe que les autres ministères. Et donc, ça aurait requis peut-être une approche un peu différente. Mais dans le reste de l'appareil public, l'appareil étatique, non, non, j'aurais fait exactement la même chose.
Depuis que votre trio, là, vous étiez un trio économique, vous, M. Coiteux, M. Daou, il y en a eu d'autres ensuite, depuis que vous avez quitté finalement et que les libéraux ne sont plus au pouvoir, le Parti libéral est difficilement vu comme étant un parti de l'économie. Ça l'était autrefois, ça ne l'est plus aujourd'hui. D'ailleurs, on ne sait plus qui est le parti de l'économie. Or, M. Beauchemin est le porte-parole en matière de finances et d'économie. Est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité à M. Beauchemin puisque le parti n'a plus retrouvé cette étiquette-là d'être le parti de l'économie?
Bon, part de responsabilité, je ne crois pas. Vous connaissez bien la dynamique parlementaire avec 19 députés et en face, vous avez 90-89 députés de la partie gouvernementale. Disons que ça devient difficile de se démarquer. En plus, de 2020, 2019-20 jusqu'à très récemment, 2023, bon, il y avait la pandémie. La pandémie, je sais, a le dos large. Et donc, c'était encore une fois très difficile pour les partis de l'opposition d'être capables de se démarquer. Là, maintenant, je pense qu'on revient un peu à un fonctionnement un peu plus normal. Et là, on commence à voir les lacunes considérables que le soi-disant parti de l'économie, ça veut dire la CAQ, les lacunes qu'ils ont. Et donc là, je pense que ça va être plus... c'est maintenant les partis politiques, pas seulement le PLQ, mais les partis vont commencer à avancer des propositions et on va commencer à avoir une vraie démarcation des différents points de vue.
Monsieur Letao, quel est le rôle que vous allez jouer dans cette course au leadership-là? Vous êtes le premier à sauter, à appuyer. Est-ce que vous allez présider la course au leadership de M. Beauchemin ou est-ce que vous allez vous occuper d'autre chose?
Non, je ne prends pas... j'avais pris la décision en 2022, après l'élection, en octobre 2022, de vraiment me retirer de la politique active. Donc, je ne compte pas prendre aucun rôle actif dans la course. Je serai là pour donner mon opinion, pour participer à certains débats, l'élaboration de la plateforme, oui. Mais non, je suis en retrait. Je ne participerai pas activement à l'organisation de la campagne.
Est-ce que ça s'organise? Elle s'organise, cette campagne?
Du côté de Fred, je pense que oui, il commence à mettre en place une équipe, il commence à se positionner. Il n'est pas encore tout à fait prêt à faire une annonce de début de campagne, mais il travaille activement sur ça.
Et c'est quoi son leitmotiv, Monsieur Letao? C'est quoi son leitmotiv? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? C'est quoi son obsession?
C'est l'économie, c'est la croissance économique, c'est et surtout de contribuer à créer au Québec un environnement économique propice au développement, un développement du 21e siècle, pas le développement de 1975, comme ça va être le cas avec la CAQ, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc un développement économique pour le bien-être de la société, je pense que c'est ça qui le motive. C'est ça qui m'avait motivé à moi aussi. Et pour nous, la condition sine qua non, la condition essentielle pour qu'on puisse aspirer à avoir une économie moderne, efficace et prospère, c'est d'avoir des finances publiques bien en ordre.
Carlos Letao, ancien ministre des Finances du Québec et premier allié de Fred Beauchemin dans la course au leadership du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Yasmine.
Au revoir.
À la prochaine.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On poursuit l'épisode de Yasmine dans les prochaines minutes. Sujet là, tellement intéressant. On va se poser la question, est-ce que la beauté en 2024 a encore une influence sur le recrutement dans le milieu du travail? Et je sais que c'est un dossier glissant parce que notre premier réflexe serait de dire, ben non, plus de nos jours, ça s'est peut-être déjà vu avant, mais plus en 2024. Mais est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Est-ce que, mettons, à compétences égales, est-ce qu'on aurait tendance à engager le candidat plus beau? Je sais pas, je pose la question, mais c'est pas moi qui vais y répondre. On reçoit Annie Boilard sur le sujet, qui est spécialiste en ressources humaines. Annie a d'ailleurs sa compagnie Réseau Annie RH. On va en savoir plus. Puis si jamais vous voulez ajouter votre grain de sel, vous êtes toujours les bienvenus. Et en fin d'épisode, c'est la discussion avec Alexandre Moranville-Ouellette, qui remplace d'ailleurs Alexandre Dubé cette semaine. Donc, vous pouvez l'écouter du lundi au vendredi entre 6h et 8h. Il vient parler du deepfake audio aux États-Unis, qui a carrément déclenché une vague de haine envers un membre d'un établissement scolaire. Il va nous expliquer toute la situation, tout ce qui s'est passé. Donc ça s'en vient d'ici la fin de l'épisode. Et dès 15h, ben, c'est autour de Sophie Durocher. Sûrement que vous en avez entendu parler, je peux pas croire. C'est partout là, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 6 mai, c'est la journée québécoise du stimé. du hot dog vapeur. Et tout ça est l'idée originale de l'humoriste Mathieu Dufour, qu'on surnomme affectueusement Matt Doff. Pourquoi? Ben parce que 6 mai, quand on le dit rapidement, ça sonne un peu stimé. Bon, vous voyez le concept derrière tout ça. Donc, il a lancé ça, la blague, sur les réseaux sociaux et ça marche. Là. Il y a plein de compagnies qui l'ont interpellé pour embarquer dans ce projet-là, dont La Fleur, qui font, entre autres, les fameuses saucisses hot dog. Donc, Matt Doff, aujourd'hui, il se promène dans un camion avec sa face dessus. Il distribue des hot dogs vapeur à qui n'en veut. Donc, il sera ici en studio. J'imagine qu'il va nous apporter des hot dogs vapeur. Et avec Jean-François Barry, bien, sujet qui va vous interpeller, je suis pas mal certaine, on va parler des beaux-parents. À quel point ils font une différence dans la vie des enfants, qui amènent un beau contexte familial. Peut-être que vous êtes un beau-papa, une belle-maman, peut-être que votre chum, votre blonde, a décidé d'embarquer dans cette aventure-là de la beau-parentalité. Alors, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire le 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à commercial.cube.radio.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Une course à la direction du Parti libéral du Québec, tu sais, ça fait un temps qu'on s'en est pas parlé. Alors, même s'il n'est pas officiellement candidat, le député Frédéric Beauchemin, qui a reçu l'appui de l'ancien ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, trouves-tu que c'est un appui important?
Ben, c'est sûr que c'est un appui important. Carlos Leitão est quelqu'un qui jouit d'une grande, d'un grand respect. Là, c'est beaucoup de monde qui respecte Carlos Leitão. Ça a toujours été quelqu'un qui sombrait pas dans la partisanerie, de poser, d'apprécier pour son ton très calme et sa crédibilité. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Fred Beauchemin. Mais moi, la question que je me posais, puis je viens de recevoir M. Leitão en entrevue à Cube, qui m'expliquait que lui, il voulait ouvrir le bal pour appeler finalement tous les militants libéraux et tous ceux qui doivent se positionner, de commencer à se positionner et que c'était pour le bien du parti que de lancer rapidement cette course-là. Il m'a également dit que ça commençait à s'organiser autour de Fred Beauchemin. Là, il commençait à y avoir une organisation autour de lui, puis que ça s'enlignait là, pour être officiel prochainement. J'ai demandé d'ailleurs, Julie, pourquoi Fred Beauchemin? T'sais, il n'y a pas un appui, on n'entend même pas qu'il a un appui au sein de son caucus. Il m'a dit que c'est l'économie, parce qu'il a la même obsession que lui, celle de l'économie, de la gestion des finances publiques.
Mais ils ont déjà œuvré dans le même secteur, hein, celui des banques.
Oui. Les deux sont banquiers, c'est ça. Il a un profil similaire à M. Leitão et ils se connaissent depuis plusieurs années. Même lorsque les deux étaient au privé, les deux étaient banquiers, ils se connaissaient déjà dans ce temps-là. Et ça fait en sorte qu'ils avaient gardé de bonnes relations. Ils se sont aussi côtoyés lors de la course au leadership où Dominique Anglade en est sortie gagnante. Les deux s'étaient impliqués avec le camp de Dominique Anglade. Alors pour lui, ça, il laissait comprendre que c'est un choix naturel qu'il a eu que d'appuyer Fred Beauchemin. Mais il ne va pas prendre de position ou de responsabilité active dans cette course au leadership dans le clan Beauchemin.
Et tu sais, Yasmine, samedi, nous serons le 11 mai. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer le 11 mai? C'est le début de la marche Compostelle pour Denis Coderre. Alors, nous sommes sur le bout de notre chaise à savoir si oui ou non il va se présenter une fois que sa marche Compostelle sera complétée.
On a hâte de savoir le fruit de cette marche. Oui. Moi, je prends des marches là, de temps en temps, là, mais je ne prends jamais d'autant de bonnes décisions, là, de décisions aussi grandes durant mes marches. C'est plutôt le temps de faire le vide dans ma tête que de le remplir. Mais j'ai hâte de connaître le fruit de la réflexion de M. Coderre.
À suivre, donc. Autre parti politique maintenant, Québec solidaire, qui a été happé encore une fois, cette fois vendredi dernier, par deux autres départs à la permanence du parti. J'aime beaucoup le titre de ton papier aujourd'hui, Yasmine. Gabriel Nadeau-Dubois, qui a ses propres carrés rouges. Il y a ceux qui veulent que Québec solidaire accède au pouvoir, ceux qui veulent aussi que Québec solidaire accède au pouvoir, mais très idéalistes, ne veulent pas que Québec solidaire vende son âme. On va écouter ensemble un extrait de l'entrevue qu'a réalisé Philippe-Vincent Foisier un petit peu plus tôt avec Sol Zanetti.
De gouvernement, mais pas un parti comme les autres. On n'a pas eu un succès en 2022 comme en 2018, là, effectivement, puis je pense qu'on a fait certains bilans par rapport à ça. Moi, je pense que on doit peut-être réfléchir encore à ça, puis de voir, OK, comment est-ce qu'on peut, là, en ce moment, dans la conjoncture actuelle, là, montrer Québec solidaire comme un parti qui n'est pas comme les autres, puis qui offre quelque chose de vraiment différent, puis d'audacieux. Puis ça, je pense que ça va se faire en prenant des risques.
Bon, comment tu interprètes là, ce qu'on vient d'entendre?
Ben, c'est ça, c'est que si on est toujours dans le paletage de nuages, hein, tu sais, on va voir comment Québec solidaire va pouvoir bouleverser, innover. Mais oui, mais ça fait pas 6 mois que Québec solidaire existe, là. Ça fait déjà plusieurs années. Et ils ont amélioré leur score. Ils ont connu une défaite d'une campagne électorale. C'est Émilie Le Sartérien en Abitibi. Là, maintenant, c'est est-ce qu'ils doivent aspirer au pouvoir puis faire tout en sorte, notamment des compromis, parce que tous les partis politiques en font des compromis pour pouvoir se hisser ou se rapprocher du pouvoir. Ou est-ce qu'on a raison, puis on va pas bouger et donc on va rester là où on est, dans la position dans laquelle on est, condamné à l'opposition. Et c'est là ces deux groupes qui sont en train de s'affronter. Problème, en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois était dans le premier groupe, là, celui qui voulait avoir raison, là, les plus radicaux, et tranquillement, il a fait son chemin dans le deuxième groupe, celui qui dit ben, on peut avoir un plus grand impact lorsqu'on est élu, est élu au gouvernement, on peut avoir des politiques publiques qui nous ressemblent plus. Et aujourd'hui, il se retrouve avec ceux qui étaient à côté de lui, à ses côtés, il y a encore quelques années. Comment va-t-il gérer cette sortie de crise-là? Bien hâte de le voir.
Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi.
Ben, Julie.
Allons immédiatement à 14h.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
Parlons des vraies affaires, là. Est-ce qu'en 2024, notre apparence physique, si on est une femme ou un homme, nos cheveux, nos maquillages, la manière avec laquelle on se présente, ça a une influence sur le recrutement, puis pas le recrutement là de, tu sais, je parle de recrutement d'exécutifs, les recrutements de postes de responsabilité. Et ça, je vous pose cette question là dans la foulée de l'embauche et l'annonce de cette embauche de Madame Geneviève Biron à la tête de Santé Québec. On en parle avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour Madame Boilard.
Bonjour Madame Alpabil.
Disons que Madame Biron a été choisie. On voit que, ben en fait, c'est une femme. On nous présente comme si c'était une victoire, le fait que ce soit une femme qui est à la tête de Santé Québec. On nous la présente comme une force tranquille, comme si elle était très calme, très posée, mais capable de prendre des décisions. Est-ce qu'on utilise ces mêmes qualificatifs-là pour les hommes pendant un recrutement?
Ah, ça, c'est une excellente question. Hein? Il y a des préjugés qui cohabitent, puis on a des façons différentes de juger la performance. C'est vrai, malheureusement, encore en 2024. Du moins, on a des façons différentes de l'exprimer suite à des processus de recrutement, mais ce sera la même chose pour des processus de promotion en fonction des genres. Et Madame Yannès Menil, aujourd'hui, on se parle notamment toute la notion de la beauté. Hein? C'est une des choses qui nous intéressait, la notion de la beauté. Et nous sommes nullement à dire que Mme Biron a été choisie pour son poste pour d'autres raisons que ses compétences.
Important de le rappeler, de le dire et de le redire, là.
On est convaincus que ce fut un processus rigoureux puis que ça, ses compétences ont fait la différence. Mais c'est intéressant dans le cadre d'une réflexion de se demander, mais les belles personnes sont-elles favorisées en général dans les processus de recrutement? On aimerait bien se dire qu'en 2024, on est franchement passé par-dessus ça. Hein? On voudrait se croire que ça n'a plus d'incidence, mais malheureusement, moi qui suis professionnelle en ressources humaines, je ne peux pas mettre ma main sur mon cœur puis vous dire, hors de tout doute, qu'il est absolument certain qu'il n'y a plus aucun processus de recrutement en 24 qui sont biaisés à cause de l'apparence des gens.
Mais même dans des postes exécutifs, là, même dans des postes à très haute responsabilité, c'est encore quelque chose qui joue beaucoup parce que j'ai l'impression que le marché est plus petit, évidemment, quand on est à un certain niveau de responsabilité. Est-ce qu'on s'attarde quand même à la question du physique?
Alors, on souhaite que ce soit des cas d'exception. On souhaite pas nullement recruter des gens à cause de leur apparence. Tous les recruteurs, toutes les entreprises veulent recruter les bonnes personnes pour les bons emplois. Beauté mise à part, ça n'a pas d'incidence. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons des biais inconscients qui s'opèrent dans notre cerveau, qui font qu'on a un préavis positif envers les gens qui sont de belle apparence. Et ça, ben, ça a une incidence sur plein de choses dans notre vie, notamment dans les processus de recrutement. Aux grandes dames des recruteurs, notamment, ça s'appelle l'effet halo. C'est halo, il y a une centaine d'années qui a découvert cet élément du fait qu'on a ce préavis positif pour les belles personnes.
Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au recrutement des femmes ou est-ce que la beauté des hommes est aussi joue aussi sur ces biais cognitifs-là?
Les deux, ça s'avère pour les deux. Je vais nous donner des exemples. Le premier exemple, il est plus au féminin, mais le deuxième exemple, je vais inclure les genres. Au féminin, une étude qui a été faite où on a séparé des groupes de personnes en deux. Le groupe A, tout le monde dans l'exemple devait parler au téléphone avec la même personne, sans la voir. On a donné au groupe A une photo en leur disant « la personne avec qui vous allez parler, c'est cette belle personne ». Puis on a donné au groupe B une photo d'une personne plus moche en leur disant « ça, c'est la personne avec qui va être votre interlocutrice ». On s'entend, là, Madame Abed Fabel. Dans tous les cas, tout le monde parlait avec la même personne. Ben, c'est avéré que, tristement, les gens qui parlaient avec la personne qui avait vu la belle photo, qui était sous l'impression de parler à une belle personne, ont trouvé la discussion plus significative, ont senti plus d'empathie de la part de leur interlocutrice, ont trouvé la discussion plus fluide et plus agréable. Donc, on voit les biais. Puis là, vous demandiez, est-ce que ça s'opère plus au masculin qu'au féminin? Je vous cite une autre étude. Cette fois-ci, c'était avec des CV. Donc, les chercheurs ont pris des CV qui se constituaient pour répondre à des offres d'emploi annoncées publiquement. Donc, on créait des CV. Personne n'était là de l'autre côté de ces CV, là. Ce n'était que des documents. Et dans l'étude, ils ont apposé des photos sur les CV. Donc, des photos de beaux hommes et de belles femmes, ainsi que des photos d'hommes plus moches puis des femmes plus moches. Bien, c'est avéré que les beaux hommes ont eu 35 % plus de retours, c'est-à-dire qu'on les a convoqués en entrevue 35 % plus souvent, et les femmes 40 %. Donc, s'il y a un biais, effectivement, on est encore un petit peu plus sensible à la beauté au féminin qu'au masculin.
Est-ce que parce que là, on dirait qu'il y a comme deux biais ou deux mythes qui sont en contradiction, que les belles femmes sont moins intelligentes, puis tout d'un coup, les belles femmes deviennent plus compétentes. Lequel est plus vrai de ces mythes-là ou lequel est plus faux?
Alors, ce qu'on sait, là, quand on regarde les biais inconscients, c'est vraiment qu'on a tendance à faire confiance, à se sentir plus en sécurité avec des gens qui ont un visage symétrique. Donc, c'est plus la beauté. Et ce que ça fait, c'est que ça va leur donner un préavis positif. Je peux pas nécessairement commenter sur intelligent ou pas intelligent, mais les gens vont avoir l'impression de se sentir plus en confiance avec de belles personnes, du moins des gens avec des visages asymétriques qui devient un critère de beauté par la suite. Et c'est ça. Nous, en recrutement puis aux ressources humaines, on a envie de s'époumoner, là, puis de déchirer notre chemise sur la place publique parce qu'on ne veut pas ça. C'est un piège. Et les entreprises se sont dotées de processus pour essayer d'éviter ce piège le plus possible. Mais quand nous disions tantôt au début de notre discussion, on ne peut pas être certain qu'en 2024, ça ne s'opère plus, c'est que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont les mêmes processus de recrutement.
Ben, c'est un peu comme l'équivalent d'une première date. Tout le monde arrive lavé, propre, maquillé, coiffé. Puis là, un an après, les enfants arrivent, là, les cheveux se réveillent comme ça, le maquillage est coulant, les dents sont pas brossées. On peut se réveiller de manière un peu plus brutale un an après le début d'une relation. Annie Voilard, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel.
On retrouve Alexandre Morin-Ville-Ouellette, journaliste à la recherche de Cube. Bonjour Alex.
Bonjour Yasmine.
Il y a cette histoire absolument renversante d'un membre d'un établissement scolaire qui a été lui-même victime de l'intelligence artificielle.
Absolument. Puis là, c'est important de préciser, là, il s'agit d'un membre, là, on appelle ça un proviseur, là, c'est un peu comme un directeur d'école dans le Maryland, là, tout près de Washington, M. Eric Haysworth. Et lui, en janvier dernier, sort un enregistrement de sa voix qui est répandu là, sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, dans laquelle, là, attention, là, tient des commentaires absolument dégueulasses, insulte des enfants juifs, parle d'enfants noirs ingrats, tu sais, quelque chose d'absolument raciste. Là. Ça, c'est un extrait dans lequel c'est raciste, dégueulasse, ça sort, puis c'est sa voix. Et là, ben, tout le monde se met à le dénoncer. Les gens commencent à y envoyer des menaces de mort. Il y a du monde qui l'harcèle. La police est obligée de mettre de la surveillance sur sa maison parce qu'il y a du monde qui font des menaces de mort qu'on considère assez crédibles. Merci. Il y a un militant des droits civiques aux États-Unis, le monsieur Deray McKesson, qui lui sort en disant « Vous devez démissionner », réclame sa tête haut et fort. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de ça qui est vrai. c'est du deepfake. C'est un enregistrement à l'intelligence artificielle qui imite la voix du proviseur et non pas lui qui parle. Et c'est, selon moi, un cas de figure qui illustre à quel point l'intelligence artificielle, c'est un danger. Parce qu'on pense tout le temps, ah oui, ça va couper plein de jobs, ça va changer la manière dont on pense les choses. Il y a des gens qui sont convaincus que l'intelligence artificielle pourrait se dresser contre nous comme dans Terminator. Mais les vrais dangers de l'intelligence artificielle, à court et à moyen terme, c'est exactement ça. D'où l'importance de commencer dans nos lois, dans nos législations, puis surtout dans notre éducation, à commencer à expliquer à notre jeunesse, à sensibiliser le grand public en général à qu'est-ce que c'est du deepfake, puis surtout à vérifier puis contre-vérifier, c'est plate, mais toute l'information qu'on va recevoir dans les prochaines années, il faut la vérifier.
Ça mais on l'a déjà vu avec Justin Trudeau, puis l'espèce de polémiste, là, Rogan.
Joe Rogan?
C'est ça, Joe Rogan. Ils avaient fait un deepfake avec la voix de Justin Trudeau, puis c'était à s'y méprendre. Là.
Oui, puis ça, ça arrive pour toutes sortes de personnages importants. Hein. Plus tôt cette année, c'était la même chose avec Joe Biden, par exemple. Il était sorti là, du faux contenu qui imitait la voix de Joe Biden, encore une fois, en janvier, dans laquelle ben, on l'entendait dire aux gens de l'État du Maryland, aux électeurs démocrates, « Allez pas voter pour la primaire. Pardon? » Tu sais, qui dit ça puis pourquoi? C'est un effort directement d'ingérence électorale. Mais ça visait Joe Biden. Ce que tu parlais, ça vise Justin Trudeau. Là, c'est pas compliqué. C'est un proviseur inconnu d'une école inconnue dans un bled quelque part. On sait rien, on sait pas. On doit avoir à peine un enregistrement audio de cet homme-là. Et pourtant, ben c'est quelqu'un de son propre entourage. C'est qu'un collègue de travail qui était fâché, qu'on ait déclenché une enquête à son sujet, qui se venge en publiant ça. Nos outils sont rendus assez forts pour que n'importe qui que vous soyez, on est capable, à la minute où il y a un peu d'enregistrement ou de visuel de vous, on est capable d'aller chercher ça, puis de créer des outils. Puis c'est là que je trouve que ça devient dangereux, parce qu'il va toujours y avoir des gens pour faire des faux d'un politicien. Il y a toujours des gens qui vont faire des faux de célébrités.
Ouais.
Mais de monsieur, madame, tout le monde, puis avec une telle aisance...
Ben, la question que je me pose, là, tu sais, on a tous cherché à foxer... faire l'école buissonnière au secondaire.
Oui.
Mais tu sais, avec un petit logiciel d'intelligence artificielle, la voix de ta mère ou de ton père qui appelle la secrétaire pour lui dire que tu peux pas être là parce que tu as un rendez-vous chez le médecin.
J'espère sincèrement que personne...
m'a écouté.
J'ose croire qu'il y a des adolescents qui nous écoutent. Yasmine, je l'espère. Merci d'être là à Cube, mais s'il vous plaît, n'écoutez pas les conseils de Yasmine Abdel-Fadel aujourd'hui.
Mais tu sais, je pense là. Tu sais, je me dis, maudit, si j'étais jeune, là, tu veux passer la journée avec tes amis dans le parc plutôt. Je salue ma mère qui m'a déjà pognée dans un parc puis pas à mes cours. tu utilises la voix de ta mère ou de ton père pour appeler la secrétaire puis comment mon fils, il pourra pas être là, tu laisses ça, un message au répondeur.
Mais ça se fait, puis ça, je pense que tu vois, personne n'aurait de raison de douter de la chose. Bon, ça peut sembler une petite espièglerie, c'est pas trop grave en soi, mais c'est juste le fait que ce soit autant démocratisé qui est inquiétant autour de ça, qui est inquiétant, puis surtout parce que pour ce qui est d'un deepfake visuel, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, c'est beaucoup plus facile à détecter en ce moment. En ce moment, je le dis, en ce moment, si ces technologies continuent de s'améliorer, et elles vont continuer de s'améliorer, on va avoir de la difficulté de plus en plus à le détecter. Mais sur une image, là, c'est pas compliqué. Il y a des signes, tu sais.
Ouais, les images, c'est plus facile.
Invariable, tu sais. Il n'y a pas de reflet, par exemple, sur des lunettes ou sur un plan d'eau, dans un miroir.
Ça va s'améliorer aussi, là.
Mais c'est ça. Ça va s'améliorer aussi. Mais pour l'instant, on est encore capable de bien reconnaître ça. Pour ce qui est de l'audio par intelligence artificielle,
c'est
vraiment plus difficile. Il y a des logiciels qui existent d'intelligence artificielle aussi pour contrer l'intelligence artificielle. C'est à peu près un des seuls moyens qu'on ait de bien le faire en ce moment. Puis quand je dis bien faire, c'est de le faire sans certitude.
Mais on pourrait-tu, par exemple, moi puis toi, à la place de travailler comme maintenant, faire le travail buissonnier puis d'avoir une intelligence artificielle qui enregistre cette conversation-là?
Ça pourrait. Ça pourrait, Yasmine. Est-ce que ce serait aussi pertinent, intéressant, puis amusant que ce qu'on fait? Non. Puis surtout parce que c'est un des problèmes aussi de tout ce qui est justement là, AI, deepfake à l'audio.
C'est que la qualité du son n'est pas là.
La qualité du son n'est pas nécessairement là, mais il y a aussi les intonations, hein, les pauses. Puis c'est ce qui est analysé par un logiciel. Pour de l'audio, on essaie de voir quelle tonalité, quel accent tonique sont mises là-dedans. C'est quand que la personne va prendre des respirations aussi, par exemple, dans sa discussion. Est-ce qu'il y a des variations du ton? Est-ce que le volume monte, descend? Parce que tout ça, pour l'instant, c'est les seuls signes qu'on a pour être capable de détecter de l'audio comme ça. Et c'est là que je reviens sur le point que je disais tout à l'heure. de l'éducation. Parce que, puis je le sais, là, on est toujours en train de dire « Oui, mais on parle pas assez de ça à l'école, puis on parle pas assez de ça, puis... » Mais c'est vrai. Il y a toutes sortes, selon moi, là, de dossiers de modernes comme ceux-là. Là. L'intelligence artificielle, laquelle il va falloir commencer à en parler dans nos écoles. Si c'est pas déjà commencé, on a un problème, selon moi. Parce que c'est une nouvelle réalité. Elle arrive extrêmement vite, puis il va falloir être capable de montrer puis de former les générations qui s'en viennent à être capables de l'utiliser de manière éthique, de l'utiliser de manière intelligente, puis surtout de ne pas se faire berner. Parce que si on ne peut plus faire confiance à toutes les sources d'informations qui sont autour de nous, on est dans le chenoute. Je vais le dire comme ça, on est dans la chenoute.
Mais c'est tellement difficile à encadrer, Alex. Je vois pas comment on peut encadrer ça.
C'est difficile. T'as raison que c'est extrêmement difficile. Je dis pas que c'est une tâche aisée, puis tant mieux, parce qu'au Québec, là, on a déjà, je veux dire, on casse beaucoup de sucre sur le dos d'Éric Kerr, puis du ministre de la cybersécurité et du numérique, qui, je répète, de la cybersécurité et du numérique, je veux dire, ça va pas. C'est pas un ministère qui est connu pour ses grands coups d'éclat, hein, à part quand c'est négatif, comme dans le cas de Saclic, par exemple, mais pour ce qui est de ça, le fait qu'on ait déjà commencé un comité de réflexion, qu'un comité de travail, qui a remis un rapport déjà, qui est en train d'être épluché, puis dont on dit on va mettre des mesures en application, puis quand je parle d'un rapport, c'est sur l'utilisation et l'encadrement de l'intelligence artificielle par notre gouvernement. Ben, je suis content, là. On a déjà fait ce travail de réflexion-là, bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre de mettre en place ces mesures-là? Selon moi, non.
Mais ça bouleverse trop de secteurs. Ça bouleverse le secteur des médias, par exemple. Mm-hmm. Ça bouleverse l'éducation. Ça bouleverse positivement la santé, par exemple. Tu sais, il y a des secteurs où ça le bouleverse positivement puis d'autres négativement. Mais comment prendre le positif puis interdire le négatif? Écoute, il faut faire des choix là-dedans, là.
C'est impossible de l'interdire. Pour commencer,
non,
ça,
c'est impossible.
Pense,
le train est parti, là.
Ouais, le train est parti. Vraiment, l'enjeu maintenant, c'est le train, il roule. On va continuer avec cette allégorie-là.
Roule vite. Faut c'est le capable... seul TGV qu'on a au Canada.
C'est le... Ouais, une chance qu'il n'est pas à grande fréquence, celui-là. Non, mais comment peut-on s'accrocher à ce train-là puis être capable, c'est de suivre? Difficilement, peut-être, mais de suivre. Avant qu'il parte, qu'il s'éloigne puis qu'on soit laissé dans la poussière.
Combien de temps ça nous a pris à encadrer Uber puis Airbnb?
Oh, là, déprime-moi pas, Yasmine.
Non,
j'essaie,
mais je te pose la
j'essaie
question.
J'essaie de se pomper. T'as raison. Ça a pris trop de temps. Les taxis puis Uber, ça a été un fiasco. C'est les chauffeurs de taxi qui
Airbnb,
en ont mangé une claque. Airbnb, ça a été fou. Puis là, je dis combien de temps ça a pris de temps? Combien ça a pris de temps avant de l'encadrer? Es-tu vraiment encadré maintenant?
Non, mais tu sais, faire semblant, là. Faire semblant qu'on est au courant.
Oui, mais je pense que il n'y a pas de délai trop court. Il faut qu'on soit capable de mettre ça en place. Mais surtout, je répète, dans notre cursus scolaire, à l'école, je suis convaincu qu'il y a un endroit, il y a un cours où on peut essayer d'enseigner ça, ou au moins de l'aborder, que ce soit, parce que c'est multidisciplinaire, ça touche à tout, d'être capable de l'aborder un peu partout, d'être capable de former, tu sais, c'est pas pour rien, là, ça va être culture et citoyenneté québécoise, là, ce nouveau cours qui remplace éthique et culture religieuse. Encore une fois, bravo, là, moi, je suis un des plus grands fans du fait qu'on change ce cours-là. Éthique et culture religieuse, c'est un cours au secondaire, c'est pas compliqué. T'as un bon prof, t'as un bon cours, t'as un mauvais prof, t'as un mauvais cours.
Écoute, dans mon temps, c'était formation personnelle et sociale. Professionnelle ou personnelle, je me rappelle plus, j'y allais pas.
C'est, bon, t'es au parc, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour moi...
FPS!
Puis là, on essaie de tout mettre dans ce cours-là, mais pour moi, la chose importante de ce cours qui s'appelle culture et citoyenneté québécoise, éthique et culture religieuse, ou peu importe, pour moi, le nerf de la guerre, c'est que ce cours-là, c'est censé former les jeunes à être des citoyens critiques.
D'accord.
À avoir une pensée critique, à avoir un jugement. C'est une des valeurs les plus importantes pour moi, pour n'importe qui sont, qu'on soit jeune ou vieux, si on n'est pas capable de grandir en ayant un jugement critique, en étant capable de peser le pour et le contre, de voir qu'est-ce qui est vrai,
ouais,
qu'est-ce qui est pas vrai.
Ça devrait être partout, dans toutes les classes. On peut pas avoir un cours 2 heures par semaine pour apprendre à être citoyen. Tu dois apprendre à être citoyen autant en éducation physique qu'en chimie, qu'en...
T'as raison, Yasmine, mais c'est pas ça. Je veux dire, ça fait des années, moi, je faisais en secondaire 5, là, je faisais des bricolages. C'est pas notre joke, je faisais des dessins, des bricolages dans mon cours d'éthique et culture religieuse. Au lieu, justement, d'apprendre qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, comment fonctionne la Charte canadienne des droits et libertés, comment être. Il y a tellement, mais tellement de choses qu'on aurait pu apprendre. C'est pas ça qu'on faisait. Faire tes impôts.
Ça devrait être un cours obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Hey, on nous apprend à utiliser un compas puis un rapporteur banque. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé un compas de ta vie?
Je sais pas.
Chaque année, tu fais tes impôts.
Chaque année, je fais mes
impôts. Jamais on te l'a présenté.
Jamais on me l'a présenté.
Merci.
Bref, on aurait une chronique en entier à faire sur qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on devrait apprendre
et
à l'école.
Qu'est-ce qu'on apprend et qui sert strictement à rien?
Ça aussi, c'est vrai, mais tu vois, là, je veux juste au moins qu'on commence cette réflexion-là de société. Oui, c'est beau un rapport. Oui, c'est beau qu'il y a des sages qui se penchent là-dessus. On aime le mot « sage », là, mais quelque part, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qu'il faut donner les outils, puis les démocratiser surtout, ces outils-là, pour être capable de distinguer le vrai du faux, d'être capable au moins de réfléchir, de se poser la question, puis de pas tout gober l'information qu'on reçoit comme du cash, comme étant vrai, parce qu'on va avoir des problèmes encore plus importants. Puis je m'excuse, c'est pas demain la veille là, qu'on va arrêter d'avoir des gens fâchés qui font des deepfakes comme ça, ou ben tout simplement d'autres nations, d'autres pays. On le sait que la Russie et la Chine le font activement dans le monde. Il est pas trop tard, mais il faut quand même se mettre là-dessus.
Et on va continuer de les suivre. On va pas retenir notre souffle, sinon on va mourir avant de voir la lumière au bout du tunnel. Alexandre Morinville, Ouellet, journaliste à la recherche à Cube. Merci beaucoup.
Un plaisir.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités et chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.